Vous aurez reconnu les voix de Florent, Céline, Nicolas et Lino. Restez sur Transistor, c'est l'heure d'écouter Les Yeux des Oreilles.
L'orage d'été grondait tout autour des falaises sableuses. Loin en contrebas, la mer suçotait les galets comme un vieillard pourvu d'une seule dent, à qui on a donné un bonbon acidulé. Et le doyen des mages, assis parmi les armeries maritimes et les rupies bruyantes au bord de la falaise, berçait l'enfant dans ses bras, le regard fixé sur l'océan. Un silence soudain dans son dos le fit se retourner, et il leva des yeux rougis de larmes vers une haute silhouette encapuchonnée, vêtue d'une robe noire.
Ypsilor le Rouge,
s'enquit la silhouette. La voix était aussi caverneuse qu'une grotte, aussi dense qu'une étoile à neutrons. Ypsilor se fendit du sourire affreux de qui succombe brusquement à la folie, et offrit l'enfant à l'examen de la mort. « Mon fils, dit-il, je vais l'appeler Thune. »«
Un nom qui envoie un autre,
fit poliment la mort. » Le mage se mit debout, étendit délicatement le bébé sur l'herbe clairsemée, et ramassa un long bourdon qui l'attendait là. L'objet était fait de métal noir, couvert d'un réseau de sculptures d'or et d'argent, qui témoignait d'un manque de goût aussi onéreux que sinistre. Le métal, c'était de l'octefer, intrinsèquement magique. « C'est moi qui l'ai fait, vous savez. Ils disaient tous qu'on ne pouvait pas faire un bourdon en métal, qu'il fallait du bois, mais ils avaient tort. J'ai mis beaucoup de moi-même dedans. Je ne lui donnerai. Ils m'ont chassé avec leurs livres, leurs rituels et leurs traditions. » Ils se prétendaient mages et ils avaient moins de magie dans tout leur corps plein de graisse que moi dans mon petit doigt. Banni, moi, pour avoir montré que j'étais humain? Qu'est-ce qu'ils seraient les humains sans amour?
Une espèce rare,
dit la mort. La foudre hurla depuis le cœur du nuage, s'abattit sur la pointe du chapeau d'Ypsilor, lui crépita d'un bout à l'autre du bras, fusa le long du bourdon et frappa l'enfant.
Maintenant, tu vas me suivre.
Non.
Si, tu es mort, tu vois.
La mort regarda à la ronde en quête de l'ombre tremblotante d'Ypsilor et ne parvint pas à la trouver.
Où tu es ?
Dans le bourdon.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre belle émission de lecture, au cœur de l'après-midi. On espère que vous êtes confortablement installés pour entendre nos voix. Oui, aujourd'hui nous avons la chance de parler en direct sur les ondes de Transistor. Vous, en revanche, vous avez le malheur d'entendre toutes nos bêtises non coupées au montage, ou non montées au coupage pour être exact. Mais pauvres, les larmes vous montent déjà aux oreilles. Et oui, j'ai le droit de le dire, car ici, les yeux ont des oreilles. Vous le savez, car vous avez déjà écouté l'épisode 15, l'équipe a bien changé depuis l'année dernière. Il a fallu démarcher, recruter, on a trouvé des primo-arrivants et même quelqu'un de mono. Il y a aussi Mathilde, transhistorienne et en-spectatrice de renom, qui proposera cette année, j'en suis convaincue, les thèmes les plus scabreux que vous puissiez imaginer. C'est la nouvelle secrétaire de l'association, héritage de Caroline. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Du côté du sang frais, vos oreilles ont la chance d'entendre Céline, une angliciste dont vous lisez les écrits un mercredi sur deux lorsque la newsletter avec un N majuscule atterrit sur votre boîte mail.
Bonjour.
Mais vous entendrez aussi Ager en M1 de Lettres Modernes. Vous l'entendrez dans beaucoup d'autres émissions cette année, à commencer par Y a une vie après normale à 15h.
Bonjour.
AL2, une Polcom et une Lettres Modernes, elles ont hérité de Camille. Quant à moi, pauvre minoritaire, j'adresse toutes mes félicitations à Willem, qui a su tenir bon durant toute une année face à la multitude, qui est un mot dont la féminité est trop souvent oubliée. Big up à toi, Will. Clément a hérité de la régie de Robin, et malgré sa passion pour les boutiques de vêtements, il ne porte pas de t-shirt à analyser, c'est bien dommage. Bon, vous l'avez compris, c'est une saison sous le signe de l'héritage qui commence pour les yeux en des oreilles. Alors, pour ce numéro spécial anniversaire, sans la moindre originalité, on a choisi comme thème « héritage », au pluriel, parce que c'est classe. Cette musique divine, elle annonce notre invité. Suspense, de qui peut-il bien s'agir? Eh bien, comment faire une émission sur l'héritage sans celle dont nous héritons de l'émission? Vous avez bien sûr reconnu sa voix en début d'émission, Caroline est avec nous cet après-midi. Encore, diront les mauvaises langues, encore, diront ses innombrables admirateurs. Non, je ne suis pas fou, hello Caroline.
Hello dear.
En début d'émission, c'était d'ailleurs un extrait de Sourcellerie de Terry Pratchett. Oui, j'ai réussi à insérer du Pratchett dans l'émission. Mon travail ici-bas est terminé. Pour ceux qui ne connaissent pas cet auteur et l'univers du disque monde et qui veulent que je leur parle de ma passion et de mes problèmes psychologiques, envoyez-moi un mail parce que là, je n'ai qu'une vingtaine de minutes.
Ce n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ce n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec.
Et si le meilleur moyen d'hériter de quelque chose, c'était d'ignorer qu'elle nous est due? C'est ce que semble suggérer Gabriel García Márquez dans Cien años de soledad, fresque familiale rocambolesque et inspirée, qui voit l'amnésie et les disparitions en tout genre frapper les générations successives de la famille Buendía. Dans l'extrait que va vous lire Nicolas, José Arcadio II est découvert par son aïeul dans une pièce poussiéreuse de la demeure familiale, oublié de tous alors qu'il tentait, spoiler, de déchiffrer les parchemins qui donneront la clé de la destinée de la famille à la fin du roman.
Hizo desembarazar de escombros y telarañas la habitación donde a José Arcadio Buendía se lo secó la moliera buscando la piedra filosofal. Puso en orden el taller de platería que había sido revuelto por los soldados y por último pidió las llaves del cuarto de Melquíades para ver en qué estado se encontraba. Fiel a la voluntad de José Arcadio II, que había prohibido toda intromisión mientras no hubiera un indicio real de que había muerto, Santa Sofía de la Piedad recurrió a toda clase de subterfugios para desorientar a Úrsula. Pero era tan inflexible su determinación de no abandonar a los insectos ni el más recóndito e inservible rincón de la casa, que desbarató cuanto obstáculo le atravesaron y al cabo de 3 días de insistencia consiguió que le abrieran el cuarto. Tuvo que agarrarse del quicio para que no la derribara la pestilencia, pero no le hicieron falta más de 2 segundos para recordar que ahí estaban guardadas las 72 vacinillas de las colegialas y que en una de las primeras noches de lluvia una patrulla de soldados había registrado la casa buscando a José Arcadio II y no habían podido encontrarlo. «¡Bendito sea Dios!», exclamó, como si lo hubiera visto todo. Tanto tratar de inculcarte las buenas costumbres para que terminaras viviendo como un puerco. José Arcadio II seguía releyendo los pergaminos. Lo único visible en la intrincada maraña de pelos eran los dientes rayados de lama verde y los ojos inmóviles. Al reconocer la voz de la bisabuela, movió la cabeza hacia la puerta. Trató de sonreír y sin saberlo repitió una antigua frase de Úrsula. Que quería murmuró, el tiempo pasa. Así es, dijo Úrsula, pero no tanto. Al decirlo, tuvo conciencia de estar dando la misma réplica que recibió del coronel Aureliano Buendía en su celda de sentenciado. Y una vez más, se estremeció con la comprobación de que el tiempo no pasaba, como ella lo acababa de admitir, sino que daba vueltas en redondo.
Monsieur Jean-Paul Mignon, fils de Gaston Mignon, président des Champignons Mignons.
C'est moi.
Et son frère Maxime Mignon.
Présent.
Lecture de l'acte de succession de monsieur Gaston Mignon.
Allez, allez, allez.
Voici ce qu'il m'a dicté alors qu'il agonisait d'un douloureux cancer.
Allez-y.
Aïe. Ouille.
Oui.
Argleg.
Allez tout de suite à la succession, si vous
voulez. D'accord. La totalité des actions de la société Champignon Mignon ira à mes deux fils.
Pardon.
Dans le cas où l'un meurt, l'autre sera seul héritier.
C'est vrai, ça?
Pardon.
Hein? Non, rien.
C'est tout, messieurs.
Bon, eh ben merci. Au revoir. C'est ça.
Tu te rends compte?
Hein, quoi?
Nous sommes riches, tralala.
Tralala. Je lui tire une balle dans la tête ou je le pousse en bas de l'escalier.
Mais qu'est-ce que tu fais, là?
Pour rien, j'ai confondu 2 activités.
Vous l'avez compris en écoutant cet extrait débile des 2 minutes du peuple, on va passer à quelque chose de beaucoup moins moral et intellectuel et parler de l'héritage financier. C'est la première chose à laquelle on pense lorsqu'on parle d'héritage. Si vous lisez du Maupassant, du Zola, tous ces auteurs sympathiques, vous allez forcément tomber sur une de ces histoires de testament et de magots plus ou moins bien cachés. Mais ici à Transistor, on préfère faire dans l'originalité et on part en Russie avec Guerre et paix de Tolstoï en compagnie d'Agère.
Voyez-vous, chère princesse et chère cousine Catherine Semenovna, reprit le prince Basile, il faut penser à tout dans de pareils moments. Il faut penser à l'avenir, au vôtre. Je vous aime toutes trois comme mes propres filles, tu le sais. Comme la princesse restait impassible et impénétrable, il continua sans la regarder, en repoussant avec humeur un guéridon. Tu sais bien, Catiche, que vous trois et ma femme, vous êtes les seules héritières directes. Je comprends tout ce que le sujet a de pénible pour toi et pour moi aussi, je te le jure. Mais ma chère amie, j'ai dépassé la 50aine, il faut tout prévoir. Sais-tu que j'ai envoyé chercher Pierre ? Le prince Basile releva les yeux sur elle. Rien n'indiquait sur sa figure si elle l'avait écouté ou si elle le regardait sans songer à rien. Mais enfin, voici l'affaire, tu la connais. Le comte a fait l'hiver dernier un testament par lequel il laisse toute sa fortune à Pierre, en mettant de côté ses héritiers légitimes. « Oh, il en a tant fait de testament !» repartit la nièce avec une tranquillité parfaite. « En tout cas, il ne saurait rien léguer à Pierre, car Pierre est un fils naturel !»« Et que ferions-nous ? » s'écria vivement le prince Basile en serrant contre lui le guéridon à le briser. « Que ferions-nous si le comte demandait à l'empereur dans une lettre de légitimer ce fils ? Eu égard au service du comte, on le lui accorderait peut-être !» La princesse sourit, et ce sourire disait qu'elle en savait là-dessus plus long que son interlocuteur. « Je te dirai plus. La lettre est écrite, mais elle n'a pas été envoyée, et pourtant l'empereur en a connaissance. Il s'agirait de découvrir si elle a été détruite. Si au contraire elle existe, alors, quand tout sera fini ?» Il soupira pour faire entendre ce que voulait dire le mot « tout ». On cherchera dans les papiers du comte, le testament sera remis à l'empereur avec la lettre, sa prière sera accueillie et Pierre héritera légitimement de tout. Et notre part ? Demanda la princesse avec une ironie marquée, bien convaincue qu'il n'y avait rien à craindre. Mais ma pauvre Catiche, c'est clair comme le jour. Il sera le seul héritier et vous ne recevrez pas une obole. Tu dois le savoir, ma chère. Le testament et la lettre ont-ils été détruits ? S'il les a oubliés, où se trouvent-ils ? Dans ce cas, il faudrait s'en emparer car il ne manquerait plus que cela, lui dit-elle en l'interrompant du même ton et avec la même expression dans le regard. Je ne suis qu'une femme et selon vous, nous sommes toutes des sottes. Mais je suis sûre qu'un bâtard ne peut hériter de rien. Un bâtard ! Ajouta-t-elle en français, comme si ce mot dans cette langue devait répondre victorieusement à tous les arguments de son adversaire. Tu ne veux pas me comprendre, Catiche, car tu es intelligente. Si le comte obtient la légitimation, Pierre deviendra comte Bezoukhov et toute la fortune ira à lui de droit. Si le testament et la lettre existent, il ne te reviendra à toi que la consolation d'avoir été bonne, dévouée, etc. Je sais que le testament existe, mais je sais aussi qu'il n'est pas légal, et vous me prenez, je crois, pour une idiote, mon cousin, répondit la princesse, convaincue qu'elle avait été mordante et spirituelle. Ma chère princesse Catherine, reprit le vieux prince avec une impatience marquée, je ne suis pas venu pour te blesser, mais pour causer avec toi de tes propres intérêts. Je te répète pour la dixième fois que, si le testament et la lettre se trouvent parmi les papiers du comte, tes sœurs et toi, vous cessez d'être les héritières. Si tu manques de confiance en moi, adresse-toi à des gens compétents.
Ah, tout ça est très bien, mais à partir de quel moment vous allez partir dans des délires de normaliens du site Descartes ?
Me demandait tout à l'heure le petit père des peuples, notre cher vice-président. Eh bien, c'est maintenant, grâce à Céline et à l'appui de Caroline. Je sais qu'on n'a jamais assez de VO dans les yeux ou des oreilles, mais je pense qu'il y a quand même une surpopulation d'anglicistes autour de cette table.
Ouais ! Our age is retrospective. It builds the sepulchres of the fathers. It writes biographies, histories, and criticism. The foregoing generations beheld God and nature face to face, we through their eyes. Why should not we also enjoy an original relation to the universe? Why should not we have a poetry and philosophy of insight and not of tradition, and a religion by revelation to us and not the history of theirs? Embosomed for a season in nature, whose floods of life stream around and through us, and invite us by the powers they supply to action proportioned to nature, why should we grope among the dry bones of the past, or put the living generation into masquerade out of its faded wardrobe? The sun shines today also. There is more wool and flax in the fields. There are new lands, new men, new thoughts. Let us demand our own works and laws and worship.
On va donc, vous l'avez tous compris, parler d'intertextualité et d'héritage en littérature. Mathilde, justement, va nous déclamer une fable que beaucoup de gens connaissent très bien, signée Jean de La Fontaine, mais héritée, de manière totalement assumée, d'auteurs antiques et modernes, connus ou inconnus, peu importe, tant qu'il y a des animaux. Auparavant, je vous laisse écouter un extrait de Flamma, du groupe Quintal, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui reprend de manière très moderne des textes du Moyen-Âge, en latin, en ancien français, en gaélique, avec un léger accent allemand vachement cool.
mal qui répand la terreur. Mal que le ciel en sa fureur inventa pour punir les crimes de la terre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, capable d'enrichir en un jour l'Achéron, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'envoyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mourante vie. Nul mets n'excitait leur envie. Ni loup, ni renard, n'épiaient la douce et l'innocente proie. Les tourterelles se fuyaient. Plus d'amour partout, plus de joie. Le lion tint conseil et dit « Mes chers amis, je crois que le ciel a permis pour nos péchés cette infortune, que le plus coupable de nous se sacrifie aux traits du céleste courroux. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend quand de tels accidents ont fait de pareils dévouements. Ne nous flattons donc point, voyons sans indulgence l'état de notre conscience. Pour moi, satisfaisant mes appétits gloutons, j'ai dévoré force mouton. » Que m'avait-il fait, nulle offense, même s'il m'est arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévouerai donc s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse, ainsi que moi. Car on doit souhaiter, selon toute justice, que le plus coupable périsse. « Sire, dit le renard, vous êtes trop bon roi. Vos scrupules font voir trop de délicatesse. Eh bien, mangez mouton, canaille, sotte espèce. Est-ce un péché ? Non, non. Vous leur fîtes seigneur en les croquant beaucoup d'honneur. Et quant au berger, l'on peut dire qu'il était digne de tous les maux, étant de ces gens-là qui, sur les animaux, se font un chimérique empire. » Ainsi dit le renard, et flatteur d'applaudir. On n'osa trop approfondir du tigre, ni de l'ours, ni des autres puissances, les moins pardonnables offenses. Tous les gens querelleurs, jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits saints. L'âne vint à son tour et dit « J'ai souvenance qu'en un pré de moine passant, la faim, l'occasion, l'herbe tendre et, je pense, quelques diables aussi me poussant, je tondis de ce pré la largeur de ma langue. Je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. » À ces mots, on cria « Haro sur le baudet !» Un loup, quelque peu clair, prouva par sa harangue qu'il fallait dévouer ce maudit animal, ce pelé, ce galeux d'où venait tout leur mal. Sa pégadie fut jugée capendable. Manger l'herbe d'autrui, quel crime abominable! Rien que la mort n'était capable d'expier son forfait, on le lui fit bien voir. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir.
Bon, une fois n'est pas coutume, au lieu de faire une discussion littéraire, intelligente, j'ai décidé de poser des questions embarrassantes, bon, en fait pas tant que ça, à l'équipe des yeux en des oreilles. Je suis extrêmement bien entouré en plus, je me sens plus. Alors, donc, est-ce que finalement vous avez quelque chose de spécial dont vous avez hérité d'une manière ou d'une autre et que vous aimeriez partager avec les auditeurs de Transistor ?
Moi, je crois que j'ai hérité de toute ma famille, en particulier mes grands-parents, mon amour pour les animaux. Et de ma mère...
C'est mignon.
De ma mère, une super recette de crêpes aussi.
Ah, d'accord. Bon, on en rediscute plus tard à ce moment-là, parce que j'ai un peu faim, moi. Caroline, toi qui es invitée, qu'est-ce que tu nous as rapporté en héritage, finalement, de tes contrées ensoleillées ?
Je ne l'ai pas apporté parce qu'il ne va pas avec mes vêtements du jour. J'ai un collier de ma grand-mère qui est décédée, voilà, c'est le moment émotion, qu'elle portait
toujours. J'ai pas prévu le jingle pour la séquence émotion.
C'est pas grave, je peux faire. Comme ça.
Voilà, mais c'est pas mal. C'est pas mal, j'aime bien.
Et j'y tiens, mais il est bleu et or, donc là, ça va pas aujourd'hui. Sinon, j'ai probablement hérité de mon père, mon talent pour les langues.
D'accord. Du coup, on t'a pas eu en VO aujourd'hui, c'est dommage.
Moi, c'est beaucoup moins attendrissant.
Ce n'est pas ce que vous croyez.
J'ai hérité de ma grand-mère une obsession pour le ménage. C'est un peu gênant. Quoi ? Et ça en énerve plus d'un, mais je suis un peu maniaque. Et voilà, donc je pense que j'ai. Et ma mère me dit que j'ai hérité ça de ma grand-mère, donc de sa mère à elle. Voilà.
D'accord.
Simplement, oui.
Mais du coup, c'est génétique ou environnemental ?
Écoute, ma grand-mère ne vit pas dans ce pays, donc je pense que c'est génétique. Parce que
c'est fou, ça.
J'ai jamais vécu avec elle. Bref, je m'égare complètement.
Mais du coup, du coup, c'est bien dans le thème, parce que pour Il était une science, on va parler de l'évolution. Et donc, Caroline, ta question fait une magnifique transition pour une émission qui ne passe pas du tout maintenant. Désolée.
Merci quand même.
Céline ?
Moi, du coup, j'ai hérité de quelque chose de très matériel, mais auquel je tiens beaucoup. En fait, c'est un album de photos qui m'a été donné aussi par ma grand-mère. mais de vieilles photos de gens qui étaient ma famille, mais dont je dois savoir les noms parce que je les ai notées. Qui remontent à très très loin. Et c'est assez émouvant parce que c'est là qu'on se rend compte aussi qu'on descend vraiment d'une lignée, en quelque sorte, et qu'on a plein de gens inconnus qui sont passés avant nous, et c'est assez émouvant de s'en rendre compte. Et j'ai aussi hérité de livres quand j'étais enfant, qui m'ont été donnés, et je les ai toujours. Voilà.
Et du coup, on fera une émission des yeux, des oreilles. Le thème, ça sera les livres d'enfance de Céline.
et toi, Nicolas ?
Et alors moi, malheureusement pour vous, en fait, j'ai hérité mon humour de choses comme, par exemple, les 2 minutes du peuple, Terry Pratchett, des choses comme ça. Et
on donc,
du coup,
même.
Voilà le résultat.
Il dit malheureusement, mais en fait, il est super fier.
Mais je
on t'aime comme tu
moi,
es, tu n'as pas à t'excuser. Nicolas.
Oh là là. Alors, j'aimerais en régie qu'on coupe ce passage et qu'on me le tourne en boucle, en fait. Je pense que ça pourra servir de jingle à une future émission où je parlerai de moi, de ma vie et de mon âme. Du coup, j'ai aussi hérité d'une super émission qui s'appelle Des yeux en des oreilles.
Ah, merci
Caroline d'être là pour les premiers épisodes, de venir de Nice, de braver les éléments, les contrôleurs SNCF, pour nous rejoindre. Et donc...
Est-ce que je peux ajouter un truc ?
Oui, vas-y, mais oui, bien sûr.
Donc, il y a peut-être des gens comme moi qui n'ont pas du tout de culture, et quand Nicolas a dit héritage, on pensait d'abord Christopher Paolini. Et après, ils se sont dit non, cette série.
Je confirme, c'est la première chose à laquelle tu as pensé. Oui.
C'est oui, parce que je te l'ai dit en plus. Et après, je me suis dit non, cette série, elle est nulle. Enfin, le 4 en particulier, il est nul. Bon, c'est genre, c'est pas ça.
Il n'aurait pas dû avoir de 4.
Il n'aurait pas dû avoir de 4. Non, mais c'est le phénomène Hollywood. Bref. Du coup, on n'aurait jamais on aurait lu ça dans l'émission. Moi, j'adore la fantasy, mais alors là, c'est pas notre âge. Par contre, je voulais conseiller une série de mangas qui s'appelle Les Gouttes de Dieu. Donc, manga japonais, comme la plupart des mangas. Qui parle de vin. Alors oui, parce que les Japonais se découvrent une passion pour le vin, apparemment, c'est un truc en ce moment.
Tant qu'ils ne boivent pas du Beaujolais comme les Américains.
Apparemment pas. Et donc c'est l'histoire d'un... Enfin, le héros est le fils d'un œnologue très célèbre, dans le monde du manga bien sûr, qui serait l'équivalent de Robert Parker, c'est un mec connu, bref. Et qui vient de mourir, sauf que son fils déteste le vin. En fait, son père l'a forcé dans son enfance à goûter toutes sortes de baies et des pierres, en fait, pour lui apprendre à reconnaître les différents parfums, les différents goûts qu'on trouve dans le vin. Et il ne lui laissait jamais goûter le vin. Et en gros, il l'a complètement dégoûté. Et il travaille pour une société de bière. Bref, son père vient de mourir. Et on découvre que le testament dit que s'il veut hériter de la fortune de son père, de sa demeure et surtout de sa collection de vins dont la valeur est inestimable, il va falloir qu'il soit en compétition avec un autre œnologue, un œnologue reconnu, qui a été adopté par son père avant qu'il meure. C'est toujours des histoires de rivalité débile dans les mangas. Et du coup, à chaque fois, il y a une description d'un vin que le père a marqué avant sa mort. Et ils doivent aller aux quatre coins du globe pour trouver le vin en question. Bon, bien sûr, c'est un manga, donc je veux dire, ils goûtent un vin et puis pouf, ils sont dans un champ de fleurs. Paf, c'est un vin, c'est la Joconde, oui. C'est les glaneuses de Millet. Oh mon Dieu, je sens des accents de bois. Enfin, je veux dire, c'est complètement exagéré. Mais après, c'est marrant, c'est éducatif, il y a des jolies images. Et c'est donc un héritage financier, mais qu'on s'approprie en apprenant à connaître son père. Qu'il avait complètement rejeté. Voilà.
C'est très beau. Moi, justement, ton œnologie, ça me fait penser au club œnologie alternative de l'ENS qui écrit. C'est le club Piquette, en fait, mais on appelle ça œnologie alternative. Et ils écrivent des descriptions de vins qui sont incroyablement précises. On sent le vin arracher la gorge quand on les lit. Bon, bref. Merci de nous avoir parlé de ce manga, parce que c'est pas souvent qu'on peut parler d'un manga dont les yeux ont des oreilles. Il faudrait que les yeux et des mains sachent lire de droite à gauche, de haut en bas. Enfin, c'est assez compliqué. Bon. C'est déjà la fin de cet épisode numéro 16 de Les yeux ont des oreilles. Et oui, c'est le direct, ce sont des choses qui arrivent. Merci à Caroline pour sa présence à un épisode supplémentaire et pour avoir amené Figaro qui nous a tenu compagnie. On va vous quitter avec, ça devient une habitude, un extrait de théâtre. Il s'agit de La nuit de Valogne d'Éric Emmanuel Schmitt qui propose une réécriture du mythe de Don Juan. Devinez qui va récupérer le rôle. On espère, non nécessairement dans cet ordre, que vous hériterez bientôt de beaucoup d'argent, que vous allez vous mettre à Terry Pratchett, que vous lirez, verrez ou entendrez une reprise incroyable d'une autre œuvre. Pour cela, rien de plus simple, allez fourrer le nez dans un livre connu, inconnu, ancien, récent, intelligent ou très très bête, peu importe, tant que vous écoutez sa voix, tant que vos yeux ont des oreilles, copyright Camille qui doit bien souffrir du décalage si elle essaie de nous écouter en live.
Vous êtes ignoble.
Merci.
Effectivement, Don Juan, vous êtes très fort. Vous servez scrupuleusement à chacune d'entre nous ce qu'elle ne veut pas entendre. Car vous savez que la haine est un ciment plus fort que l'amour. Mais vous êtes démasqué, Don Juan. Nous déjouerons vos ruses. Parlez, Duchesse.
Voici, Don Juan. Cette soirée n'est pas un bal, quoique visiblement vous vous y amusiez beaucoup. C'est un procès.
Un procès? Et le procès de qui?
Le vôtre.
Et le jury? Le procureur?
Nous-mêmes.
Ous pour cela, sans doute que vous êtes en robe, mais les jupons sont de trop. Et le plaignant? La victime?
Les victimes sont trop nombreuses, et même serrées. Elles ne tiendraient pas dans cette modeste demeure. Nous avons été forcés de choisir.
Don Juan lui baisant galamment la main.
Madame la Duchesse, vous êtes délicieuse. Personne ne sait recevoir comme vous, et je vous remercie de tout cœur.
Le procès aura lieu cette nuit.
Exécution à l'aube.
L'exécution durera plus longtemps que vous ne le croyez.
Un supplice? J'adore.
Crois-moi, dans quelques heures, tu riras moins.
Don Juan à la Duchesse.
Et comme c'est gentil d'avoir fait venir spécialement des personnes si pittoresques, comment faites-vous pour avoir d'aussi bonnes idées?
Misérable, le pan de la Duchesse est en train de mourir.
Celle-là surtout est impayable, vous avez eu raison de la déterrer.
Riez tout votre saoul, Don Juan, vous ne me ferez pas changer d'avis.
Elle modifie brusquement son débit.
La famille de Chiffreville, cela vous dit quelque chose? J'ai dit Chiffreville.
Don Juan cesse immédiatement de rire.
Oh, il ne rit plus.
Il pâlit.
Il pâlit.
Il s'assied fébrilement.
Il s'assied fébrilement.
Il passe nerveusement sa main tremblante sur son front.
Il passe nerveusement sa main tremblante sur son front. Quel excellent comédien! Nous apprécions la performance, ces dames et moi. Mais n'en faites pas trop, c'est inutile. La petite Angélique est là, au-dessus de nous. Depuis que vous l'avez séduite, puis abandonnée après avoir tué son frère en duel... Oui, je sais, le duel fut loyal et son frère a demandé, avant de mourir, qu'elle vous pardonne. Elle est malade, Don Juan. Gravement malade d'une maladie qui n'a pas de nom pour les médecins, mais que nous, femmes, savons bien reconnaître. Le désespoir d'amour. Vous allez l'épouser.
Et vous lui serez fidèle.
Et vous ne la quitterez pas.
Et vous lui ferez des enfants.
Madame Cassin, lumineuse et triste.
Et vous la rendrez heureuse.
Sinon, cette lettre de cachet fera son office. J'y inscrirai votre nom, Don Juan. Vous aurez toute la police du royaume à vos trousses. Vous savez qu'elle est bien faite. Et vous pourrez paisiblement finir vos jours à la Bastille.
C'est le mariage ou la prison, ne balancez point.
Je doute qu'en ce donjon, vous puissiez faire du charme à votre geôlier.
À quelques souris, peut-être. Il paraît qu'il y en a.
Mais non, il n'y a que des rats.
Ou de la vermine.
En tout cas, le jupon vous manquera.
Et le soleil.
Et la liberté.
Il ne vous restera que Dieu.
Vous lui demanderez votre pardon.
Mais comme vous n'y croyez pas, Dieu va sûrement s'ennuyer.
Mesdames, voyons.
À Don Juan.
Il y aura donc ce procès et vous épouserez la petite.
Don Juan. J'accepte.
Sortant dans son silence.
J'accepte.
C'était les yeux des oreilles. Il est 15h sur Transistor. C'est l'heure du Flash Info. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie. Rebonjour à tous. À la une de l'actualité de ce mardi 2 décembre, l'Assemblée nationale va se prononcer sur le sujet de la reconnaissance d'un État palestinien. Le vote aura lieu à 16h15, après les traditionnelles questions au gouvernement. Sauf surprise, cette reconnaissance devrait être votée, mais sans les voix de la droite. Rappelons qu'il ne s'agit que d'une résolution sans les non contraignantes, c'est-à-dire qu'à travers ce texte, il n'y a qu'une invitation faite par le Parlement au gouvernement de reconnaître un État palestinien. Un texte identique sera examiné le 11 décembre au Sénat. Toujours en France, c'est aujourd'hui que s'ouvrent les assises de l'économie de la mer et du littoral à Nantes. Pour l'occasion, le Premier ministre fait le déplacement et sa visite risque d'être chahutée hein, parce que rien moins que 7 rassemblements de mécontents auront lieu, notamment les pêcheurs inquiets par les quotas européens. À Nantes, Manuel Valls s'est voulu rassurant. Les mécontents, il y en a aussi à Hong Kong, c'est la révolution des parapluies, enfin... C'était la révolution des parapluies. Les militants pro-démocratie se divisent hein, quant à la forme de leur action après les heurts de dimanche soir et la répression policière de lundi. Les trois fondateurs d'Occupy Central, principal mouvement de cette opposition populaire, viennent d'annoncer qu'ils allaient se rendre à la police mercredi et ont appelé les manifestants à évacuer les sites qu'ils occupent depuis plus de 2 mois. Ils veulent ainsi montrer qu'ils respectent l'état de droit quand le gouvernement, lui, affiche un visage répressif. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec cela et des voix s'élèvent pour continuer la mobilisation. Si le conflit se complexifie à Hong Kong, vous le voyez, en Ukraine, en revanche, il semble s'apaiser. Le gouvernement ukrainien et les séparatistes pro-russes de la région de Lugansk ont conclu un cessez-le-feu total sur la ligne de front. Il entrera en vigueur à partir du 5 décembre. La décision daterait du samedi 29 novembre, mais elle a été officialisée seulement ce matin. Autre bonne nouvelle économique maintenant, le ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian a rencontré lundi son homologue indien. Au menu, des discussions, la question des rafales et, petit miracle, ils se sont mis d'accord pour surmonter leurs différends en vue de la finalisation d'un contrat estimé à 12 milliards d'euros portant sur la vente de 126 rafales. S'il aboutissait, il s'agirait du premier contrat à l'exportation pour les Rafales, dont le lancement date de 1989. Miracle, je disais, Marie.
Merci Thomas. Le 2 décembre, n'oublions pas que c'est aussi l'anniversaire de Transistor. Écoutons tout de suite Thibaut Bécchini, Lola Salem et Jocelyn Dutil.
5 ans, c'est un chiffre rond qui est un beau chiffre. Donc la prochaine étape, c'est 10 ans et je n'ai pas de doute sur l'avenir de Transistor. Et je pense que Transistor arrivera à l'étape des 10 ans sans aucun problème. Et donc je souhaite un bel avenir à Transistor. Et joyeux anniversaire Transistor.
Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Transistor, joyeux anniversaire.
La Marine Monroe.
J'ai un vœu à faire quand même sur les 5 prochaines années. J'ai pas trop de doutes non plus maintenant sur on va dire l'avenir, mais c'est vraiment de toujours garder cet esprit fondateur qui concilie à la fois le on va dire, côté un peu pro, puis le côté décalé, le côté camaraderie, parce que c'est à mon avis ce qui fonde réellement l'état d'esprit de Transistor. Joyeux anniversaire Transistor.
Oui, bon anniversaire. Retrouvez celles et ceux qui ont fait notre web radio dès demain dans un documentaire, Notre Transistor, à écouter sur transistor.fr bien évidemment.